Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un sabbat très reposant. Il est rare qu'à 85 ans, une personne fait encore des exploits, que quelqu'un se fait remarquer à cet âge, quelqu'un qui est visiblement pas à la retraite, quelqu'un qui est très actif. Il est rare de trouver ce genre de personne. Mais Caleb l'était. Et nous trouvons dans Nombres chapitre 14 et le verset 24 à quel point Caleb était différent des autres enfants d'Israël. Dans Nombres chapitre 14 et le verset 24, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, Dieu mentionne ici deux choses. D'abord, qu'il avait un autre esprit que les enfants d'Israël. Et deuxièmement, qu'il a pleinement suivi la voix de Dieu. Il était entier dans son observance de la voix de Dieu. Mais, d'une façon générale, qu'est-ce que nous pouvons remarquer, constater dans la vie de Caleb? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans sa vie? Et ça nous amène à ce que nous venons de lire tout à l'heure, l'esprit de Caleb. Et c'est le titre de ce sermon, l'esprit de Caleb. Quel était son esprit? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a différencié des enfants d'Israël? Et pour mieux comprendre, nous allons, si vous voulez bien, nous allons comparer les enfants d'Israël dans leur ensemble avec Caleb, avec son comportement. La première chose que j'ai voulu faire ressortir, c'est que les enfants d'Israël manquaient de foi. Ils manquaient de confiance, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Je ne vais pas m'y reporter, je vais citer seulement, mais dans Psaume 78, vous pouvez même le lire à la maison, parce que c'est un psaume assez détaillé dans certains domaines. Je vais lire plusieurs versets dans ce psaume. Comme j'ai dit, je ne vais pas me reporter. Dans le verset 19, psaume 78 et le verset 19, ils dirent, en parlant d'Israël, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Verset 22, « Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. » Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Et on voit donc à travers le psaume qui parle de leur manque de confiance en Dieu, verset 32, « Et ne crurent point à ses prodiges. » Verset 41, « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. » Plusieurs versants dans les traductions anglaises, parlent, y compris le New King James Version, parlent de limiter, qu'ils ont limité Dieu. Et c'est intéressant parce qu'ils avaient vu Dieu accomplir d'innombrables miracles, de l'eau qui jaillissait des rochers, du pain, la manne qui tombait du ciel, la puissante nation égyptienne qui était mise à genoux, par les fléaux divins. Or que les enfants d'Israël avaient été protégés dans le pays de Gozen où ils habitaient, ils n'ont pas perdu leur premier-né quand Dieu a frappé les Égyptiens. Et nous voyons dans Nombres chapitre 14, le verset 1, c'est une fois que les 12 espions sont revenus, après avoir exploré le pays de Canaan, Nombres chapitre 14, le verset 1, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. C'était leur spécialité de murmurer. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? » Pourquoi un genre d'accusation contre Dieu dans le verset 3? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Ils voulaient faire marche arrière. Nombre chapitre 14, toujours le verset 22. Dieu entend leur murmure et Dieu prend une décision. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Mais les enfants d'Israël manquaient vraiment de foi et de confiance en Dieu. Et de pair avec leur manque de foi et de confiance, ils avaient aussi peur. Nombre chapitre 13 et le verset 28. Toujours Nombre chapitre 13 et le verset 28. C'est 10 des 12 espions qui parlent ici. Les espions justement qui manquaient de foi et de confiance en Dieu. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et quelques versets plus loin, les enfants d'Anak sont décrits comme des géants. Ils étaient effrayés. Ils avaient peur et ils ont transmis cette peur aux enfants d'Israël. La peur détruit la foi. Et il est peut-être intéressant de comparer leur attitude, leur esprit, leur état d'esprit avec l'état d'esprit de David dans le psaume 27, verset 1. Psaume 27, verset 1, je lis ce verset dans le second 21, traduction second 21, de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » C'était pas le cas pour les enfants d'Israël. Et nous voyons, pour revenir à Nombre chapitre 14, nous voyons à quel point ils avaient peur et à quel point ils ont exagéré. Verset 33, toujours Nombre chapitre 13 et le verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Leur peur les a amenés à une exagération. Et la peur dictait leur comportement. Caleb, au contraire, avait la foi en Dieu. La confiance en Dieu. Et Israël et Caleb, le peuple d'Israël et Caleb ont rencontré les mêmes choses, ils ont vu les mêmes événements, mais ils n'avaient pas le même esprit. Le commentaire de Matthew Poole note, et je cite la traduction française ici, il note que Caleb, et je cite, était un homme d'un autre caractère et d'un autre comportement, fidèle et courageux, non pas mu par ce mauvais esprit de lâcheté, d'incrédulité, d'ingratitude, de désobéissance, qui régnait sur ses frères, mais pas l'Esprit de Dieu. Caleb a permis à l'Esprit de Dieu d'avoir un impact sur sa vie, ce qui est la principale raison pour laquelle il a réagi différemment des 10 autres espions. Il a été animé, comme Dieu l'a dit, d'un autre esprit. Il était un genre de pionnier, et le Larousse donne la définition suivante du mot pionnier: personne qui ouvre la voie à quelque chose, qui est la première à faire quelque chose. Il était partant. Lui et Josué étaient partants pour aller dans la terre promise. Nombre chapitre 14 et le verset 9. Nombre chapitre 14 et le verset 9. C'est Josué et Caleb qui parlent ici. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, parce qu'ils avaient peur, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Il y croyait avec tout son cœur et il n'avait pas peur. Tous les deux, ils n'avaient pas peur. Dieu était réel pour Caleb. Dieu était vivant, il avait déjà vu à maintes reprises l'intervention de Dieu, la main de Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte. Il a vu pendant le voyage jusqu'à là. Et la foi était la raison pour laquelle Caleb a pu dire à ses frères de monter et de s'emparer du pays. Comme il a dit, nous serons vainqueurs. La foi est aussi la raison pour laquelle il a pu errer pendant 40 ans, faisant confiance à Dieu pour tenir sa promesse. Et la foi est la raison pour laquelle à 85 ans, il était prêt et disposé à travailler avec Dieu et à chasser quelques géants, il y avait toujours les géants, de sa montagne. Caleb croyait réellement en Dieu et Caleb avait la foi que Dieu conduirait Israël vers la terre promise. Si vous voulez, Josué et Caleb ont vu le pays, la terre promise, avec les yeux de la foi. L'esprit de Caleb était différent. Sa vie était différente et son comportement était donc différent. Nous sommes familiers avec Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, et c'est dans ce chapitre, je ne vais pas me rapporter, mais dans le verset 32, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont mentionnés. Verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes. Et puis dans le verset 34, à la fin du verset 34, toujours en parlant de ces hommes de Dieu, et des prophètes, à la fin du verset 34, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et quand nous regardons Josué chapitre 14 et le verset 12, Josué chapitre 14 et le verset 12, ici il s'agit de Caleb qui parle à Josué. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Et nous voyons la confirmation de ça dans le chapitre suivant, chapitre 15, et le verset 14. Caleb enchassa les trois fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. C'étaient les enfants d'Anak que les 10 espions redoutaient tant. Et Caleb rejoint, pour ainsi dire, les héros de la foi mentionnés dans Hébreux chapitre 11. Nous comprenons bien que la Bible condamne la lâcheté et la peur n'a pas dicté les actions de Caleb. La peur ne contrôlait pas sa vie. Il savait, avec l'aide de Dieu, qu'il pouvait vaincre des géants. Et quand nous regardons nos vies, nous avons aussi parfois des géants qu'il nous faut vaincre. Nous aussi, nous avons des défis, des obstacles à surmonter. Nous avons, si vous voulez, dans nos vies, souvent, des géants modernes, des géants qui ne sont pas tous de chair et de sang. Ils peuvent prendre diverses formes, celle, par exemple, d'un défaut, d'une faiblesse, d'une tentation, d'une épreuve. Un géant pour nous, c'est tout ce qui nous dépasse et qui nous surpasse. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, quelque chose qui est plus puissant que nous. Et c'est tout ce que nous ne sommes pas capables de vaincre seuls et d'affronter seuls. C'est quelque chose en réalité qui a le pouvoir de nous vainquent, qui est plus fort que nous. Et les géants dans nos vies nous rappellent que nous sommes petits et que nous sommes vulnérables. Nous ne pouvons pas les vaincre seuls. Ils sont plus forts que nous à tous les niveaux. Il y avait 12 éclaireurs israélites qui ont parcouru le même pays tous ensemble. Ils ont tous vu les mêmes choses, les mêmes géants, mais seulement 2 d'entre ces 12 ont vu une bataille qu'ils pouvaient remporter. C'est vrai que parfois nous avons de grands obstacles dans nos vies qui se dressent entre nous et l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Il y a des géants, mais pour vaincre ces géants, il n'y a qu'une seule option. Nous devons nous impliquer dans un combat spirituel, parce que seuls, nous ne pouvons pas les battre. Il nous faut avoir l'humilité pour nous rendre compte qu'il y a des forces plus puissante que nous et que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Dieu est plus puissant que tous les géants que nous pouvons avoir dans notre vie. Et cela nous amène à 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 5, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 5, où il est beaucoup question d'humilité. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels les uns avec les autres, revêtez-vous d'humilité. C'est un ingrédient important. Il faut qu'elle soit présente dans notre vie. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous voulons tous bénéficier de la grâce de Dieu. Verset 6. Pierre insiste sur le thème de l'humilité, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, parce que Dieu est tout puissant, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes tout seuls. Par voie des conséquences, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisque Dieu est un Père aimant, car lui-même prend soin de vous. Et Dieu prendra soin de nous quand nous lui confions avec foi nos soucis, nos problèmes. » La deuxième chose que j'ai voulu souligner dans la vie de Caleb, c'est son état d'esprit. C'est lié à la foi que nous venons de voir. Mais nous voyons l'état d'esprit de Caleb en comparaison avec l'état d'esprit des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient constamment négatifs, pessimistes, ils n'étaient pas enthousiastes, ils se plaignaient et leur grande spécialité, ils murmuraient, ils rouspétaient. Comme Paul a évoqué lui-même, c'est Paul qui a dit « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » La référence que nous trouvons dans 1 Corinthiens 10. « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Et c'était l'histoire de leur vie, même avant les événements dans Nombre 13 et Nombre 14. Ils ont murmuré, dans Exode par exemple, ils ont murmuré à Mara contre Moïse, parce qu'il n'y avait pas d'eau, dans Exode 15. Dans Exode 16, la Bible décrit qu'ils ont murmuré dans le désert de Sin contre Moïse et Aaron, et contre l'Éternel aussi, parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Et dans Exode chapitre, ça c'est Exode chapitre 16, et dans Exode chapitre 17, le peuple chercha querelle à Moïse, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et dans Nombre, ça continue de plus belle. C'était leur caractère. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas optimistes du tout, du tout. Ça se reproduit donc dans Nombre chapitre 13 et le verset 30. Nombre chapitre 13 et le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Nombre chapitre 14 et le verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert. Murmurer, c'était leur façon d'être. C'était leur caractère. Et dans le chapitre 14, il y a plusieurs versets où il est question de murmurer. Dans le verset 27, Dieu, bien sûr, avait constaté qu'il murmurait. On va commencer avec le verset 26, si vous voulez bien. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Dieu souligne le fait qu'ils avaient murmuré. Dieu insiste. Le verset 29, il est question de la punition ici. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessous, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de nonne. Ils ont payé très très cher leur murmure. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer la pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une paix devant l'Éternel. La pénalité était sévère. Et Dieu a fortement condamné le fait que les enfants d'Israël ont murmuré contre lui. On aurait dit que les enfants d'Israël n'étaient jamais contents. Ils n'avaient pas non plus une vision de l'avenir que Dieu a promis. Nous sommes familiers avec Proverbes chapitre 29 et le verset 18. Proverbes chapitre 29 et le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Dans la version Martin, Osterwald, Darby et Crampon, nous trouvons le mot vision à la place de révélation. Par exemple, Osterwald dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, et parfois c'est traduit, la fin de ce verset est traduit par désordre. La version Rabina dit, le peuple s'abandonne au désordre. Et le second 21 traduit la fin de ce verset de la façon suivante, ne connaît aucune retenue. Et les enfants d'Israël, à l'époque, n'avaient pas de vision. Nombre chapitre 13 et le verset 31, le verset 30, nous venons de lire tout à l'heure. Nombre chapitre 13. Et le verset 31. Les hommes qui y est allés avec lui, donc avec Caleb, dirent, les 10 autres espions, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils ne voyaient pas plus loin, ils ne voyaient pas l'intervention de Dieu, la promesse de Dieu. Ils n'avaient pas de vision pour l'avenir et ils se sont abandonnés au désordre. Je continue à lire le verset 32. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et ils avaient donc aussi peur. Ils étaient extrêmement négatifs. Caleb, en revanche, était optimiste, enthousiaste, il était positif. C'était tout le contraire des autres enfants d'Israël. Et Caleb voulait entrer en terre promise. Il avait à cœur d'y entrer. Et tout de suite, Nombre chapitre 14 et le verset 6. Nombre chapitre 14 et le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Nous pouvons donc constater que c'était un langage très positif, très optimiste. Il y avait des obstacles. Mais ces obstacles n'étaient pas insurmontables. Je continue dans le verset 7. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de parture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Vous voyez son enthousiasme, son esprit très positif. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Le commentaire Adam Clark dit ceci à propos de l'expression d'ombrage. Il dit que c'est une métaphore très expressive de protection et soutien dans le pays, dans les pays étouffants de l'Est. Et nous voyons dans Psaume 121, verset 5, je ne m'y rapporte pas, Psaume 121 et le verset 5, nous lisons, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite, ton ombre. » Et l'âge n'était pas un obstacle pour Caleb. Arrivé à 85 ans, parce que c'était son état d'esprit, arrivé à 85 ans, il avait toujours la foi, toujours le courage et toujours du zèle. Les années ont passé quand nous arrivons à Josué chapitre 12. Josué chapitre 12 mentionne les 31 rois que les enfants d'Israël avaient battus. Quand nous arrivons au chapitre 13, Josué chapitre 13, c'est mentionné que Josué était vieux, avancé en âge. Josué chapitre 14, c'est le partage du pays conquis. Et nous arrivons donc à Josué chapitre 14 et le verset 6. Josué chapitre 14 et le verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, lui dit, en parlant à Josué, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple parce qu'ils avaient un autre état d'esprit, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Il était entier. Il avait obéi à Dieu avec son cœur, avec foi. Verset 10. « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Toujours partant. » Verset 11. « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Deuxième chose que nous pouvons donc constater pour Caleb, surtout par rapport aux enfants d'Israël, c'est qu'il avait un esprit d'optimisme, même à 85 ans. Et Caleb avait, contrairement aux enfants d'Israël, il avait la vision. Il avait la vision de ce que Dieu a promis. Il savait que Dieu était là et que Dieu était plus puissant que même les géants. Que la terre promise pour lui était toujours une réalité et une réalité dans sa vie quotidienne. Il avait dit de ne pas craindre les gens de ce pays, et il ne les craignait pas. Et après 40 ans dans le désert, il ne les craignait toujours pas. Avec Dieu de son côté, il n'avait pas besoin de les craindre. Il savait qu'avec Dieu, il allait y avoir un aboutissement heureux. Il y avait un troisième aspect dans la vie de Caleb que j'ai voulu souligner. C'était sa relation personnelle avec Dieu. Sa relation personnelle avec Dieu. Et comme avec les deux autres aspects, j'ai voulu commencer avec Israël pour pouvoir comparer sa relation personnelle avec Dieu par rapport aux enfants d'Israël. Et nous allons regarder, si vous voulez bien, le psaume 78. Le psaume 78, cette fois-ci, on va s'y rapporter, est le verset 8. Psaume 78 est le verset 8. Psaume 78, qui détaille donc certains événements dans l'histoire des enfants d'Israël. Psaume 78, donc verset 8. « Afin qu'ils ne fussent pas, je saute au milieu d'un contexte, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, les enfants d'Israël, donc, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Verset 15, en parlant de Dieu, « Il fendit des rochers dans le désert et donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. » Mais, verset 17, « Ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon le désir. » Et vous pouvez lire le psaume 78 à la maison, et vous pouvez voir le comportement des enfants d'Israël, et nous pouvons constater qu'il n'y avait pas de relation personnelle avec Dieu. Verset 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessaient de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Revenons, si vous voulez bien, à Nombres chapitre 14. Dans Nombres chapitre 14, un peu plus loin dans le chapitre, nous voyons que Dieu a pris la décision comme quoi tous ceux qui l'ont méprisé ne verront point la terre promise. Verset 25. Dieu donne des directives. Verset 25. Les Amalécites et les Cananiens habitent la vallée. Demain, tournez-vous. Changement donc de situation. Tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Verset 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Mais ce n'était pas un vrai repentir, et ils ont continué à pécher. Verset 41, Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananiens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. » Ils se sont détournés de Dieu. Ils n'avaient pas cette relation personnelle avec Dieu, comme Caleb. Du reste, nous voyons ici une tendance de la nature humaine. Quand Dieu dit qu'il faut faire quelque chose, l'esprit charnel ne veut pas le faire Et quand Dieu dit de ne pas le faire, l'esprit charnel cherche à le faire. Ils se sont livrés à eux-mêmes, ils se sont coupés de Dieu. La présence de Dieu n'était plus avec eux. Verset 44, ils s'obstinèrent, c'était un peuple têtu, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananiens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils n'avaient pas cette relation avec Dieu, ils ont été rebelles. Et on aurait pu imaginer que les enfants d'Israël auraient appris, après tous ces événements, avec les interventions de Dieu, les châtiments de Dieu, on aurait imaginé qu'ils avaient appris. Mais c'était pas le cas. Nous voyons dans Nombre 16, la rébellion de Corée, avec Dathan et Abiram. Dieu intervient. Il fait périr Corée, Dathan et Abiram, ainsi que les 250 hommes qui offraient le parfum. Et nous voyons dans Nombre chapitre 16, verset 41, donc après ces événements, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Le lendemain. Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir une relation personnelle avec Dieu, avec cet état d'esprit? Dans Nombre chapitre 20, il est question des eaux de Meriba, où les enfants d'Israël ont contesté avec l'Éternel. Nombre chapitre 21, c'est mentionné que le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Et Nombre chapitre 25, il est question de la débauche avec les filles de Moab. Visiblement, Dieu n'était pas présent dans leur vie personnelle. Ils n'avaient pas ce contact avec Dieu. Tandis que Caleb avait une relation personnelle. Caleb était soumis à Dieu, Caleb a obéi à Dieu. J'ai voulu revenir sur quelques versets que nous avons déjà lus en faisant ressortir cette proximité avec Dieu. Dans Josué chapitre 14 et le verset 8, Josué chapitre 14 et le verset 8, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Dieu était son Dieu. Il était proche de Dieu. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. L'Éternel m'a fait vivre. C'est Dieu qui l'a maintenu en vie toutes ces années. Caleb en était conscient. Il y avait une relation vivante avec Dieu, constante. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Dieu était son Dieu et il pouvait réclamer ce que Dieu a promis. C'était la volonté de Dieu qu'Israël prenne le pays et qui chasse ses habitants. C'est ce que nous voyons dans Josué chapitre 3, le verset 10. Je ne vais pas me rapporter Josué chapitre 3, verset 10. Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananiens, les Hétiens, les Héviens, les Pérésiens, les Gurgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Et pour Caleb, Dieu était vivant. Caleb avait un autre esprit et c'est ce qui soutenait Caleb dans sa vie. Parce qu'il était en harmonie avec Dieu, parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. Il a subi la même chose que les enfants d'Israël. Il a marché 40 ans dans le désert. Mais c'était cet autre esprit qui l'a permis de supporter et d'endurer cette traversée sans être influencé par l'esprit de ses compatriotes. Cet autre esprit l'a permis de ne pas devenir amer, de ne pas être impatient et de ne pas devenir comme eux, ses contemporains. Avec cet autre esprit, Caleb savait qu'il pouvait faire ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Il savait qu'il pouvait y arriver parce qu'il s'appuyait sur Dieu et qu'il pouvait surmonter les défis et les difficultés qui étaient devant lui. L'exemple de Caleb est un encouragement pour nous. Caleb, c'était un homme de la même nature que nous, tout comme Élie. Mais l'exemple de Caleb nous montre qu'il est possible d'avoir une autre approche, une approche différente dans notre vie de chrétien. Dieu était son Dieu. Dieu était personnel pour lui. Et Dieu est intervenu dans sa vie. Dieu l'a béni.